Bonjour et merci d'être aussi nombreux à nous écouter tous les week-ends. Au sommaire du grand face-à-face jusqu'à 13h, la semaine des humoristes d'Inter, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis le débat du samedi, ce sont des mots, des expressions qui reviennent régulièrement dans les discours du président de la République. Il y a quelques mois, il pointait le retour de la lèpre nationaliste en Europe. Très récemment, il disait que le nationalisme était la trahison du patriotisme. Emmanuel Macron qui affirme vouloir défendre la souveraineté de l'Europe. Beaucoup pensaient que tous ces débat avait été évacué pour l'éternité par la chute du mur de Berlin. Alors, la nation, une idée neuve en Europe. Nous en débattrons avec notre invité, grande figure du camp républicain, l'un des premiers à théoriser et à militer pour le souverainisme. Jean-Pierre Chevènement nous rejoindra tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et le bonheur de retrouver mes compagnons du samedi. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour.
Avant de revenir avec vous sur l'actualité chargée, la semaine vue par les humoristes de France Inter et mise en onde par François Audouin. Et cette semaine, bien sûr, les Gilets jaunes, mouvement décrypté par Jérémy Crédville.
Bon, paraît que tous ces blocages sont liés à la hausse du prix du carburant. C'est quand même ridicule de bloquer des villes alors que c'est en campagne que les gens vont être le plus touchés par cette hausse du carburant, c'est vrai. Si tu trouves l'essence trop chère en ville, tu peux toujours trouver un moyen d'aller bosser. Voilà. Si tu prends le métro et que t'es en campagne, c'est que t'es pas en campagne. C'est vrai. Si t'es vraiment obligé à Paris de prendre ta voiture pour travailler, c'est que ton travail, c'est chauffeur. Moi, je pense que le 17 novembre, on devrait tous aller manifester en campagne. Voilà, la campagne, c'est sympa. Il y a la tombe d'Émile Louis, il y a de la verdure et du pâté. Voilà, c'est plus cool. Moi, il y a des manifestations que j'aimerais bien voir. Par exemple, des manifestations où on est content. Il n'y a pas de manifestation de gens contents, on manifeste toujours contre. Si par exemple, demain, l'essence passait en dessous des 1 euro, il n'y aurait personne dans la rue pour dire « Merci, merci, on est content. L'essence moins chère, c'est super !» Slogan, un jeu de mots. Non.
Un mouvement sans leader, mais que les politiques ont tout de suite tenté de récupérer, notamment Nicolas Dupont-Aignan, qui a fait imprimer 1 million de tracts. Charline Vanhoenacker.
Vous imaginez ce que ça représente, 1 million de tracts à distribuer, quand dans le parti ils sont 12? Et comment ils vont faire d'ici samedi? J'ai calculé, ça fait 83 000 tracts par personne à ventiler. Mais tu m'étonnes qu'ils s'appellent Debout la France. Pour écouler tout ça, ils doivent tracter 24 heures sur 24. Et à pied, évidemment, vu le prix de l'essence. Mais quand tu fais imprimer 1 million de tracts, c'est que tu te sens davantage concerné par la hausse de l'essence que par l'écologie. Et c'est pas tout, Dupont-Aignan propose aux usagers de klaxonner samedi à midi. Bah voilà les armes de la révolution, hein. Che Guevara roule en tungo. Vous imaginez Macron, quand il a entendu ça, il a téléphoné dans la seconde à Édouard Philippe, doudou. On a un gros souci, là, il y a Dupont-Aignan qui va klaxonner à midi, dis donc. On est mal, hein, je crois qu'on ferait mieux de démissionner. Mais c'est très grave ce qui se passe. Il y a tellement plus personne dans l'opposition qu'on est en train de redonner espoir à Nicolas Dupont-Aignan. Il est crédité à 7%. C'est son record, 7%. C'est 7 fois plus que ce qu'il a l'habitude de faire. Il est galvanisé, Nico. Il quitte plus son gilet jaune, il dort avec. Il plane, il est là sur son petit nuage de dioxyde de carbone. Mais au fait, attends, est-ce que quelqu'un a osé lui dire que le gilet jaune dans la voiture, ça vient d'une directive européenne?
Mais pour Pablo Mira, le succès de ces manifestations peut avoir des conséquences terribles et pas seulement sur l'environnement.
Vous avez songé à l'image qu'on donne aux gens, par exemple aux touristes. Ils vont penser quoi quand ils vont voir qu'on bloque le pays comme ça? Ils vont se dire, non mais en fait, les Français, c'est des sacrés connards. Et moi, je sais pas vous, mais pour moi, hors de question qu'ils sachent la vérité. Un jour. Non, franchement, moi je dis, ça va encore être un véritable bololo, cette affaire-là. C'est pas acceptable. De plus, dans ce pays, excusez-moi, il y a des règles. Les gilets jaunes doivent savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. La France, ce n'est pas le salon de coiffure de Nicolas Sirkis. Donc samedi, Charline, je le dis Charline, je compte sur la police pour repérer les leaders de ces blocages et multiplier les BV.
Attendez, alors Pablo, ça se dit PV comme procès-verbaux?
Ah non, moi je pensais à BV comme bavure policière.
Ah oui, okay, pardon, autant pour moi. Autant pour
aucun
moi.
Problème, ma louloute.
Message reçu par Christophe Castaner et Daniel Morin nous rapporte une réunion secrète entre le ministre de l'Intérieur et son préfet de police.
Bon préfet, tu m'as compris? Samedi, pas de pitié. Si tu vois un gilet jaune bloquer la route, tu me le dégages.
Ah oui, monsieur le ministre, mais la grève est un droit. C'est grave de la briser.
Me briser les burnes aussi, c'est grave. Et là, c'est ce que tu fais, préfet. Je suis le nouveau shérif. Je vais me faire respecter.
Et quand considérez-vous qu'il y a blocage?
Moi, shérif, je considère que dès qu'une voiture met du temps à démarrer au feu vert, il y a blocage. Moi, shérif, je considère que quand un vieux met plus de 20 secondes à traverser un passage piéton, il y a blocage. Moi, shérif, je considère que quand il y a plus de 3 poussettes qui stationnent devant un jardin, il y a blocage. T'as pigé, préfet?
Oui, shérif.
Les gilets jaunes déterminés, sourds aux gestes du gouvernement, mais une solution du président de la République a particulièrement séduit Sophia Aram.
Nous avons décidé, le président Trump et moi-même, de travailler ensemble à la stabilité du Moyen-Orient, ce qui aura des conséquences positives sur le prix du pétrole. La voilà l'idée que l'on attendait depuis près de 50 ans pour résoudre l'indémerdable intrication du Moyen-Orient et entraîner Donald Trump sur le chemin de la paix, de l'espoir. Non pas de rendre la vie plus supportable à des millions de personnes, non pas de faire baisser la violence, éviter la guerre et redonner de l'espoir à l'humanité. Pas du tout, le but c'est de faire baisser le prix du carburant à la pompe. Sans déconner, fallait y penser. Et ce rebondissement, le plus inattendu de l'histoire des relations internationales, on le doit à qui ? Hein ? On le doit à qui ? Au gilet jaune ! La solution était là, à portée de main, toute simple. Il suffisait de mettre un gilet jaune et de dire haut et fort que l'augmentation du pétrole, eh ben ça va, ça suffit. Expliquer l'idée à Donald Trump et hop, la paix au Moyen-Orient était là. Franchement, si après ça, Jacqueline Mourot n'a pas le prix Nobel de la paix, je me fais nonne.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. Natacha Raphaël, vous ne portez pas de gilet jaune, mais on va évidemment en parler. Le grand face-à-face continue maintenant avec le duel.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Le duel Polony-Glucksmann, évidemment, les gilets jaunes ont largement occupé l'actualité cette semaine. Ils ont fait rire, beaucoup rire, les humoristes d'Inter. Mais on voit un mouvement éclaté, sans leader, et pourtant qui a eu le soutien des oppositions de tous bords.
Depuis le tout début, nous soutenons cette journée du 17 novembre. Je vois d'ailleurs que nous avons fait des émules.
Je serai aux côtés de la manifestation. J'ai pas l'habitude de me dérober.
Le 17 novembre est une auto-organisation populaire dont je souhaite le succès.
Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, finalement, ont cherché ce qui pouvait réunir les différentes oppositions. C'est peut-être cette histoire de gilets jaunes, Natacha.
C'est ce qui peut réunir, non pas les oppositions, mais les gens qui ne sont pas satisfaits de la politique d'Emmanuel Macron. C'est en effet un mouvement de ce genre. Après, est-ce que les oppositions traduisent les aspirations des citoyens qui manifestent et qui sont dans la rue ? C'est un autre problème. D'ailleurs, vous aurez remarqué que dans les positions des différents politiques, vous avez des positions qui sont quand même sensiblement diverses. Par exemple, entre un Laurent Wauquiez qui dit « j'y serai car je n'ai pas l'habitude de me dérober », comme si on l'avait sommé de venir et qu'il avait le courage d'y aller. C'est pas exactement la même chose qu'un Jean-Luc Mélenchon qui dit « c'est un mouvement populaire dont je souhaite le succès ». C'est-à-dire qu'on sent que Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il fallait à la fois dire que il était du côté du peuple, mais qu'en même temps, il ne pouvait surtout pas faire semblant d'être l'organisateur ou d'avoir insufflé quoi que ce soit. Et donc, oui, on est dans quelque chose de peut-être un petit peu plus subtil.
Non, mais le problème qui est presque tragique, c'est que ce mouvement qui naît d'un ras-le-bol face à l'injustice fiscale, à mon avis, plus général encore que cette taxe précisément du gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement qui a commencé quand même avec la suppression partielle de l'ISF et qui depuis à chaque fois qu'il exige des sacrifices des couches populaires en France, eh bien il est pris à juste titre comme étant injuste. Et le problème,
c'est que cette
révolte-là, qui peut avoir des fondements légitimes, s'exprime sur le cas précis de hausse de taxes sur le diesel, qui, si on est sérieux sur la transition écologique, sont nécessaires. Je veux dire, il n'y a aucune raison que le diesel, qui est beaucoup plus dangereux pour la santé que l'essence, soit sous-taxé par rapport à l'essence. Je veux dire, c'est du... quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, c'est un immense problème que cette révolte se focalise
sur la fiscalité écologique.
Sur une fiscalité écologique qui... Et ça montre quoi ? Ça montre que tant que la transition écologique ne sera pas couplée d'une transformation sociale équitable, tant qu'il n'y aura pas un projet global, ça se doublera d'une question d'injustice fiscale, eh bien, ça ne sera pas acceptable.
Mais Raphaël, Natacha, le problème, c'est de concevoir la transition écologique comme uniquement fiscale. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens de mettre en place une transition écologique, c'est-à-dire en commençant non pas par taxer les classes moyennes et les classes populaires, mais en mettant en place un grand plan d'investissement qui permette de rénover les passoires thermiques, qui permette de changer petit à petit, et ça prendra beaucoup de temps, les modes d'habitat, d'urbanisme. Oui. Il y a toute
mais
une réflexion.
Je termine ma phrase. Où les taxes augmentent.
Non, mais je termine ma phrase. On ne peut pas convertir des citoyens à l'écologie si on leur explique que c'est uniquement une taxation de ceux qui n'ont pas le choix, parce que je vois pas quelle transition il peut exister pour des gens qui n'ont pas la possibilité d'opérer cette transition et qui vont continuer à utiliser leur voiture. Et deuxième point, il y a un paradoxe immense dans la position d'Emmanuel Macron autour de ce terme mobilité, qui était au cœur de sa philosophie. L'idée que la société est fluide, qu'il faut pouvoir bouger. Et tout à coup, on taxe cette mobilité justement sur ceux qui n'ont pas le choix et qui sont les manants, c'est-à-dire manérer ceux qui restent.
Mais évidemment qu'il y a un problème d'une injustice fondamentale. C'est-à-dire que d'un côté, on taxe le diesel, de l'autre, les bourgeois qui partent en week-end à Barcelone ou à Prague, le kérosène n'est pas taxé, ou qui prennent l'avion pour aller à Toulouse ou à Lille. Là, c'est purement national, donc il pourrait parfaitement être taxé. Donc, il y a une question d'injustice. Mais il ne faut pas fuir devant la question de fond. Il va y avoir une nécessité d'une fiscalité écologique et de la taxe carbone. C'est obligé. Bien sûr que ce n'est pas suffisant, que ça doit être pris dans une transformation globale, et une transformation globale qui ne sera pas qu'une fiscalité punitive, et que ça doit être accompagné d'une fiscalité redistributive et d'un accompagnement. Mais il y aura, de toute façon, une nécessité de taxer le diesel.
Non mais oui, Raphaël, mais pas comme ça, pas maintenant, non, et pas uniquement cela. Or là, c'est ça ce qui est fait, c'est-à-dire que ça n'est absolument pas
pourtant,
une transition écologique, c'est une taxe.
Pourtant, il y a deux ans, le gouvernement Valls avait déjà fait voter le principe de l'alignement des prix du diesel de ceux de l'essence. C'était pas exactement clair pour savoir quand ça allait avoir lieu,
oui,
mais personne n'avait protesté à l'époque.
En général, on laisse la patate chaude au gouvernement suivant, c'est ce qui avait été fait aussi pour l'écotaxe, et on a vu ce que ça a donné. Simplement, ça ne peut être réellement accepté par une population que si vous avez un État qui planifie, et qui planifie sur 10 ou 15 ans.
Mais juste pour comprendre, Natacha, quand on défend la transition écologique, là pour le coup, c'est forcément ce que dit Raphaël, c'est être déconnecté des réalités du pays
et
du quotidien de ce que vivent beaucoup de Français.
Encore une fois, je suis pour une transition écologique, je suis en train de vous expliquer qu'il faut s'y prendre à long terme et que ça nécessite un investissement massif de l'État. Or, nous sommes dans une économie qui est une économie soumise au marché, où le gouvernement a décidé de ne pas avoir de marge de manœuvre budgétaire et monétaire. Quand De Gaulle a voulu réorganiser entièrement la France en 58, il a d'abord commencé par dévaluer, ensuite il a mis en place un grand plan de construction immobilière. C'était pas ce qu'il a fait de mieux, hélas, parce que ça s'est mal fait à l'époque, mais il n'empêche qu'il avait la possibilité de le faire parce qu'il avait une vision à long terme et parce qu'il planifiait. Aujourd'hui, c'est devenu totalement impensable dans l'économie qui est la nôtre.
Bien
c'est
sûr.
Ça le cœur du problème.
Bien sûr, et c'est tout le problème actuel, c'est que en s'y prenant comme cela, Emmanuel Macron tend à discréditer auprès de l'opinion des mesures qui par ailleurs sont nécessaires. Mais il faut quand même avoir le courage, à mon avis aujourd'hui, même si c'est impopulaire, de le rappeler. Ces mesures, si elles font partie d'un plan qui est juste et qui est à long terme, ces mesures sont nécessaires. Il va falloir imposer ces taxes, c'est une nécessité. Il va falloir penser comment on accompagne socialement pour pas que la transition énergétique se concrétise en fracture sociale encore plus grande. Donc il faut une vision d'ensemble. Et ce qui est hallucinant, mais vraiment hallucinant, c'est l'impréparation totale du gouvernement face à une fronde sociale qui était évidente. C'était évident que ça allait germer cette colère. C'était évident que la transition écologique, si elle n'est pas pensée de manière socialement juste, elle va produire quoi ? Plus d'inégalités. Et que si on fait mesure après mesure, ce sera une catastrophe. Mais la vérité, c'est que quand même, quand on épouse cette colère-là, il faut avoir le courage de dire, de dire aussi que ces taxes sont nécessaires.
Mais il faut avoir le courage de dire que une taxe, ça ne change pas un modèle. Ce qui change un modèle, c'est l'urbanisme. Ce qui change un modèle, c'est la relocalisation de l'économie pour permettre aux gens de ne pas faire trop de trajets. Parce que ça ne suffit pas de taxer si vous maintenez le même mode de vie pour les gens.
Est-ce que c'est un mouvement poujadiste, pour le dire rapidement, comme il a pu être qualifié ?
C'est un mouvement de fronde fiscale, comme il y en a eu énormément dans l'histoire. Il y a eu depuis le Moyen-Âge, la révolte des Maillotins, et toutes les grandes révoltes, toutes les grandes jacqueries partent d'une question fiscale.
Enfin, et plus récemment, les Bonnets Rouges, par exemple.
Oui, et en effet, le poujadisme partait de là. Après, tout dépend comment il s'exprime, et quelle est la demande qui est derrière, et quelle est l'organisation sociale souhaitée par les gens. C'est là qu'il va falloir aller vers plus de politique, c'est-à-dire essayer de décrypter les aspirations du peuple en général, c'est-à-dire de la communauté politique.
Encore un mot, Raphaël, et on change de sujet.
Ce qu'il faudrait, c'est sortir de cette crise par le haut en posant la question globale, c'est-à-dire comment on fait pour que cette transformation écologique ne soit pas socialement désastreuse. Et c'est ça ce que Emmanuel Macron n'arrive pas à penser, n'arrive pas à produire. Et c'est surtout ce qu'il traîne comme un boulet, c'est-à-dire encore une fois, les cadeaux fiscaux aux plus riches dans la société, il les paye maintenant en imposant des taxes qui touchent les classes moyennes.
Vous parliez de courage, mais il faut avoir le courage de dire que relocaliser l'économie, ça passe par une forme de protectionnisme, et ça, voilà, là aussi,
mais on peut,
je déteste
européen.
Cette expression, il faut avoir le courage de dire, mais vous voyez, dans ces cas-là, on peut le décliner sur beaucoup de choses.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Autre sujet à l'ordre du jour, vous parliez du président de la République il y a un instant, Raphaël Glucksmann, ce qui ressemble à un mea culpa. C'était mercredi soir, sur un porte-avions et sur TF1.
Il y a de l'impatience, mais il y a de la colère. Et cette colère, je la partage. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Et ça me touche moi, mais c'est plus profond. Et ce divorce, on le voit dans toutes les démocraties occidentales. Il m'inquiète et je considère qu'il est au cœur de la mission qui est aujourd'hui la mienne.
Un peu plus d'un an passé au pouvoir, et comment avez-vous reçu ces mots, Raphaël Glucksmann ?
Il a totalement raison, le problème est plus profond que simplement lui. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il a tout fait pour renforcer ce clivage, renforcer cette méfiance. Et il a, avec son arrogance, mais surtout avec sa politique, renforcé cette fracture. Et c'est un peu le problème de son entretien, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il n'a pas réussi, mais dans le même moment, il dit « je ne changerai pas d'un iota ma politique ». Or, à la fin, les gens, ils ne sont pas juste choqués par la forme, ils sont aussi choqués par le fond. Et ça reprend cette vieille rengaine des politiques. À chaque fois, les présidents, au bout d'un an et demi, nous disent « eh bien oui, j'ai fait des erreurs, j'ose les reconnaître, j'ai fait des erreurs de pédagogie, j'ai fait des erreurs de communication ». Mais non, c'est le fond qui peut poser problème aussi. Et cette rupture avec les élites dirigeantes, elle peut s'expliquer par le fond de la politique qui est menée.
Natacha Polony.
On peut rappeler tout simplement un livre majeur, 1994, l'historien américain Christopher Lash écrit « La sécession des élites ». Que veut-il dire par là ? Que le système économique néolibéral est en train de créer une classe mondiale d'élites qui n'a plus les mêmes intérêts objectifs que les peuples des pays auxquels ces élites appartiennent. Donc, ces élites ne sont plus ancrées territorialement, mais défendent leurs intérêts de classe. Ce que Warren Buffett a traduit un petit peu plus brutalement par « la lutte des classes existe et nous les riches sommes en train de la gagner ». Donc, c'est tout cela qui est en train petit à petit de déstructurer, d'atomiser les sociétés occidentales, et c'est pour ça que nous voyons surgir ces fractures absolument partout. Ce qui est profondément inquiétant, et Emmanuel Macron a raison de s'en inquiéter, c'est de voir monter les haines, c'est-à-dire que le sentiment d'impuissance et d'abandon est en train de créer de la radicalité. Mais tant qu'on n'aura pas réglé le problème de fond, Raphaël a raison, le problème politique, mais qui est un problème aussi économique, ce sont les choix de dérégulation qui ont détruit le modèle économique, politique et sociale qui avait été forgée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et qui essayait de créer un peu d'égalité et un apaisement dans un pacte politique. C'est
mais
tout ça
dites,
qui est aujourd'hui détruit.
Faut avouer à moitié pardonner quand vous entendez le président de la République.
Mais non, parce que
malgré tout, il reconnaît
bien
des
sûr, mais la faute avouée, elle ne concerne que la forme. Alors, c'est très bien qu'il ait conscience que tout ne fonctionne pas et que la lune de miel a pris fin très tôt. Mais alors ça doit conduire à une interrogation sur le fond de la politique. Ça peut pas être juste une question de débat sur la manière dont il communique, la manière dont il s'adresse aux gens. Non, il y a un problème de fond. Et ce problème de fond, quand on écoute la suite de l'entretien, il ne le pose pas. Il pense qu'il faut continuer la même politique, que sa politique est juste, et qu'il assume tout ce qui a été fait. Donc il y a un moment où vraiment, c'est pas un mea culpa, c'est une question formelle. Et vous savez, vous pouvez prendre les discours de François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou n'importe lesquels, et bien tous, au bout d'un an et demi, ils regrettent eh bien, de ne pas avoir réussi à réconcilier la France. Mais le problème, c'est qu'il y a une raison de fond à ça.
Une raison de fond, on va justement en débattre avec notre invité Jean-Pierre Chevènement. Le grand face-à-face continue avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Car le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant « nos intérêts d'abord et qu'importent les autres », on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ce qui la fait vivre, ce qui la porte à être grande, ce qui est le plus important.
C'était le président de la République le 11 novembre dernier. Nation, nationalisme, patriotisme en débat aujourd'hui dans le grand face-à-face. Et si la nation était une idée neuve en Europe, notre invité ce samedi, son nom, ses idées figurent en bonne place dans l'histoire politique contemporaine. Il a été au cœur des combats qui ont porté la gauche au pouvoir en 1981, plusieurs fois ministre, une longue carrière politique qu'il a menée sans jamais renoncer à sa liberté. Sa défense de la République et sa conception de la nation, sa critique de l'Europe se sont diffusées dans l'ensemble du spectre politique, mais qui reconnaît-il lui comme ses héritiers ? Le président de la Fondation Respublica, président de la Fondation de l'Islam de France, le Che est au micro de France Inter. Bonjour Jean-Pierre Chevènement.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue. Que vous inspirent les critiques répétées du président de la République contre le nationalisme ?
Les Gilets jaunes ne sont pas des nationalistes. Donc il y a peut-être une erreur de cible. Il faut éviter des grilles de lecture réductrices et manichéennes qui, au lieu de réduire les clivages, comme c'est le rôle du président de la République, qui est là pour rassembler, les approfondissent. Romain Gary disait « Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. » Peut-on en déduire que c'est l'exact contraire ? Est-ce que ce n'est pas plus juste de dire que c'est une maladie ? Une perversion du patriotisme, que d'aimer tellement les siens qu'on finit par en haïr les autres.
Donc vous n'êtes pas si loin d'Emmanuel Macron et de Romain Gary dans votre conception de la nation et du nationalisme.
Je suis plus près de Romain Gary que d'Emmanuel Macron, sous une petite réserve, c'est que, naturellement, je suis d'accord avec la ligne générale. Je condamne le nationalisme, qui est une exaspération d'une sorte d'individualisme à l'échelle des nations, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la nation, que c'est une très grave erreur qui a toujours fait le jeu de l'extrême droite et assumer la nation, son héritage, ce qu'elle permet du point de vue de la démocratie, de l'exercice de la citoyenneté, de la mise en œuvre des idéaux républicains, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner. À qui viendrait l'idée de construire le premier étage d'une maison sans avoir d'abord assuré les fondations et construire le rez-de-chaussée. Or, l'Europe, sans les nations, ça ne marche pas.
Et justement, on va en débattre, puisque vous avez largement inspiré les termes de ce débat, Natacha, puis Raphaël Glucksmann.
Ce qui est intéressant dans la prise de position du président de la République, c'est qu'elle a lieu le 11 novembre, c'est-à-dire pour nous parler de ce qu'a été la Grande Guerre. Et donc, c'est une façon pour le président de la République de nous mettre en garde sur l'idée qu'aujourd'hui encore, les nationalismes seraient dangereux, comme ils ont provoqué des guerres dans le passé. C'est peut-être un petit peu, tordre l'histoire. D'ailleurs, vous-même avez écrit un livre, 1914-2014, sur cette question, et cette question notamment qui nous conduit à nous interroger sur l'Europe. Est-ce que ce ne sont pas plutôt les impérialismes qui sont à craindre ? Même si le nationalisme, en effet, quand il est haine des autres, et quand il est individualisme et égoïsme, vous l'avez dit, c'est dangereux, les impérialismes ne doivent pas être occultés. Or, ce sont eux qui, aujourd'hui, fracturent l'Europe.
Jean-Pierre Chevènement.
Natacha Polony a tout à fait raison. La guerre de 1914 n'a pas éclaté du fait des peuples et des nations. Les gens étaient très tranquilles chez eux, puis à un moment, ils ont reçu leur fascicule de mobilisation, donc ils ont pris la route, nach Berlin, nach Paris, mais les peuples étaient pacifiques. Ce qui a provoqué la guerre, c'est un certain nombre de décideurs politiques qu'on peut identifier, et en arrière-plan, la concurrence de deux impérialismes dont l'un dominait le monde, c'est l'impérialisme britannique. qui ne souhaitait pas la guerre. Il considérait que, voilà, il était le premier, mais il s'inquiétait beaucoup de la montée de l'impérialisme allemand, et notamment des armements navals qui auraient pu mettre en jeu la suprématie.
Mais revenons en 2018, Jean-Pierre Chevènement. Pardon pour ce raccourci et vous imposer de se faire ce bond dans le temps, mais quand le président de la République, et Natacha le rappelait, parle des dangers du nationalisme, il a en tête évidemment ce qui s'est passé en 1914 et les origines de la Première Guerre mondiale. C'est pour critiquer les nationalismes aujourd'hui qui sont présents dans les pays qui forment l'Europe.
Oui, mais c'est une erreur de perspective. Permettez-moi de vous dire que, d'abord, ce n'est pas analyser correctement les conditions du déclenchement de la guerre de 14. Il y a un livre très à la mode, le livre de Christopher Clark. Mais il est faux. Hein, ce n'est pas la réalité. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et par ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de nationalisme, on parle de quoi exactement? Est-ce que nous sommes vraiment dans les années 30? Où sont les divisions blindées? Où est le pays agressif qui pourrait remettre en cause la paix en Europe? Hein, on ne le voit pas. On voit alors des gens comme Orban ou bien Salvini. Mais ce n'est même pas Mussolini. Soyons sérieux.
Il ne vous inquiète pas, Raphaël Guzman.
Je n'ai pas dit qu'il ne m'inquiétait pas, mais je pense qu'il faut se garder d'amalgames trompeurs et qui exaspèrent des débats sans les porter à ce point d'intelligence commune qui fait qu'on peut résoudre les questions.
Raphaël. Alors, je suis d'accord avec vous sur ce point, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les années 30 et que Salvini n'est pas Mussolini et Orban n'est pas Hitler. Ça, c'est très clair. Et que donc, dans cette comparaison, à la limite, s'il faut comparer quelque chose par rapport aux années 30, c'est plutôt la faiblesse intrinsèque des démocraties libérales aujourd'hui.
Natacha Polony et Raphaël Guzman sont d'accord avec Jean-Pierre Chevènement, c'est un miracle.
Par contre, quand le président Macron, si on enlève l'analogie historique, quand le président dénonce les périls d'une renaissance nationaliste aujourd'hui en Europe, là-dessus, je pense qu'il a raison. Il y a aujourd'hui, par exemple, Monsieur Orban, entend redessiner des frontières en s'adressant à la nation hongroise qu'il définit de manière ethnique et non républicaine, et donc aux minorités hongroises à peu près partout, éparpillées dans les pays voisins. Il y a le nationalisme russe qui ne se reconnaît pas de frontières. Il y a le nationalisme désormais de Monsieur Salvini. Il y a toute une vague comme ça, de résurgence d'un nationalisme qui n'est pas un patriotisme républicain, qui est un nationalisme extrêmement dangereux parce qu'il remet en question justement le rapport républicain à sa nation et qui se définit de manière ethnique, identitaire et exclusive des autres. Et ce retour à ce nationalisme est un péril pour l'Europe aujourd'hui.
Jean-Pierre Chevènement.
Alors, vous avez raison de souligner que la Hongrie, qui se plaint d'avoir été privée des deux tiers de son territoire par le traité de Versailles, d'abord, méconnaît le fait que c'était ce qu'on appelait la Cisleithanie, c'est-à-dire la moitié de l'Empire austro-hongrois. Donc, ils avaient la tutelle d'un certain nombre de peuples, les Slovaques, les Roumains, etc. Donc, on a simplement permis aux nationalités d'exister. Et effectivement, la Roumanie a vu réduire sa superficie. Alors, il y a des minorités hongroises en Transylvanie, en Slovaquie, mais ce sont des minorités. Hein. Donc là, je suis d'accord avec vous. Sur la Russie, je ne suis pas d'accord. Car la Russie a perdu la moitié de sa population, un cinquième de son territoire, par rapport à ce qu'était l'URSS. Et ce n'est plus l'URSS. Et il est normal que la Russie, qui a été un grand État dans l'histoire depuis très longtemps, prenne en considération les intérêts de ce qu'ils appellent le monde russe. C'est-à-dire les 25 millions de Russes qui vivent en dehors de la Russie. Ça n'est que tout simplement normal. Et nous n'avons aucune raison de les pousser dans leur retranchement. Lisez le discours de Gorbatchev pour le 25e anniversaire de la chute du mur. C'était le 9 novembre 2014.
Oui. Bravo.
Mais Gorbatchev,
pour le calcul mental,
s'adresse aux Occidentaux et leur dit « Croyez-vous que c'était intelligent de pousser vos frontières, les frontières de l'OTAN, jusqu'à quelques centaines de kilomètres de Saint-Pétersbourg? Est-ce que vous croyez que c'est intelligent de créer ce sentiment obsidional, de faire comme si on allait revenir à la guerre froide ? » Alors, moi, je trouve qu'il y a un patriotisme russe qui est légitime. Il y a aussi un nationalisme russe qui peut s'exprimer, bien entendu.
Mais c'est la même logique.
Attention,
c'est la même logique que celle d'Orban en plus agressive, c'est des puissances nationalistes qui entendent redéfinir les frontières. Et par ailleurs, il y a une forme d'international nationaliste qui se met en place et que le président de la République française, pourtant je ne le porte pas dans mon cœur, tout le monde le sait, a raison de dénoncer, puisque Vladimir Poutine est le parrain aujourd'hui de Salvini, de Orban, de ces mouvements nationalistes en Europe qui se réfèrent à Moscou pour avoir, un, une aide idéologique, deux, une aide financière, trois, une reconnaissance symbolique. Et donc, il y a cet international nationaliste qui, est aujourd'hui, menace les équilibres en Europe. C'est une évidence.
Natacha, puis Jean-Pierre Chevènement.
Alors, je pense que si on regarde la semaine d'Emmanuel Macron, on comprend que lui-même a fait évoluer sa position. Et c'est une réponse à ce que vous venez de dire, Raphaël. C'est-à-dire que le 11 novembre, il nous parle en effet de patriotisme et nationalisme et se positionne comme le leader des antinationalistes dont vous venez de faire une liste alors qu'ils sont, je pense, disparates. Et quelques jours plus tard, Emmanuel Macron affirme, reprend et met en avant davantage cette question de la défense indépendante européenne. Quand Jean-Pierre Chevènement parlait de la question de l'OTAN, l'OTAN qui pousse ses frontières, on est là au cœur du problème. Je parlais tout à l'heure des impérialismes qui sont dangereux aujourd'hui. La question de savoir si les nations européennes vont être capables de s'émanciper de ces impérialismes, que ce soit les tentations d'impérialisme chinois, russe, mais surtout d'impérialisme américain.
Et je suis entièrement d'accord.
Comment faire en sorte qu'il y ait une véritable indépendance et une véritable souveraineté? Je pense que le concept d'armée européenne est extrêmement vague. Mais qu'on commence enfin à parler en Europe de cette question des différents points qui doivent construire l'indépendance, c'est-à-dire la défense, le numérique, l'énergie, l'alimentation, tout ce qui va permettre à l'Europe d'exister
et
comme
tout ce qui est menacé
groupe
par
de nations, ça me semble plus intéressant.
Jean-Pierre Chevènement.
Oui, alors je ne partage pas ces analyses. Je crois que l'idée, enfin je ne parle pas de la vôtre, Natacha Polony, je parle de celle de...
Ah voilà, l'ordre du monde est rétabli.
Raphaël Glucksmann. Hein, je pense que voir en Poutine le parrain des nationalismes en Europe, c'est une erreur. Poutine est un réaliste. Il traite avec M. Macron, il traite avec Angela Merkel, ça se passe difficilement. Il traite avec les Américains. Il y a aussi un nationalisme américain qui s'exprime avec quelle force par la bouche
Trump,
de M. Trump. Mais en même temps, les nations ont des intérêts légitimes. Je voudrais revenir à cette idée de nation. La nation, c'est le sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance est fondamental pour que la démocratie marche. Parce que c'est seulement si vous vous sentez appartenir à une même entité que la minorité acceptera la loi de la majorité. Parce qu'ils espéreront devenir majoritaires au sein du peuple, un jour. Donc, c'est fondamental de préserver la nation si on veut préserver la démocratie. La souveraineté nationale, elle est à la fois limitée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi mise en mouvement, parce que ça lui donne un programme. Donc, il faut avoir une approche sérieuse, réaliste, comprendre que vouloir faire l'Europe à la place des nations, c'est une erreur. Hein. L'Europe, elle doit être faite avec les nations, pas contre elles. Et il y a à purger quelques décennies de malentendus organisés et d'erreurs. Et d'erreurs, parce que l'Europe telle qu'elle a été construite est une Europe libérale. Et si on voulait, par exemple, mettre en œuvre une politique budgétaire pour assurer la relance en Europe, comme le font les Américains d'ailleurs, parce que Trump a beaucoup de défauts, mais il fait au moins une politique de relance, et le chômage est à 5% aux États-Unis. Mais si nous voulions faire la même chose, nous serions totalement bridés par l'ordo-libéralisme allemand, le traité budgétaire européen, le TSCG, et quand on voit les poux dans la paille que M. Moscovici cherche au gouvernement italien, qui fait un déficit de 2,4%, alors on dit oui, mais c'est pas le vrai, etc. Mais ça manquait totalement de vision.
Mais bien sûr.
Car voilà 5 ans que l'Europe est dans la stagnation économique, entasse les chômeurs, et que cette politique austéritaire et néolibérale crée des fractures qui font le jeu de ce que vous appelez les populistes.
Mais bien sûr, mais moi là-dessus je suis entièrement d'accord et je passe ma vie à le dénoncer. Et je pense que c'est cette politique de la Commission européenne...
Vous êtes d'accord sur l'Europe?
Non, je suis d'accord sur je suis d'accord sur l'ordolibéralisme qui fait le lit justement d'une résurgence nationaliste. Et c'est la faille d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne comprend pas que sa politique et la politique qu'il soutient à Bruxelles font précisément le lit du salvinisme ou du orbanisme. Mais là-dessus, je suis d'accord.
Je crois qu'il est intelligent, il le comprend, mais il avait visé un objectif qui était électoraliste. Les Européennes, mais ça ne mérite pas ça. Je pense que les Européennes, c'est pas un enjeu capital.
Je pense que c'est un enjeu.
On se dispute sur le prix du carburant et pas sur l'Europe, vous le voyez bien.
Mais moi je pense que justement on devrait se disputer sur l'Europe et présenter différentes visions de l'Europe. Mais surtout sur la conception de la nation. Bien sûr que la souveraineté nationale est importante, mais il y a différentes échelles de souveraineté qui sont possibles. Et contrairement à ce qu'il l'applique aujourd'hui, il est possible d'avoir un pacte girondin qui avait été promis par le président de la République qui permette réellement de renforcer une souveraineté locale, préserver une souveraineté nationale et certains problèmes, certaines décisions, certains enjeux ne peuvent être traités qu'à l'échelle européenne. Et donc il faut inventer non pas cet ordolibéralisme actuel, mais une souveraineté européenne.
Alors laissez répondre le jacobin républicain.
Le fameux jacobin. Mais moi, les Girondins, laissez ça à M. Raffarin, qui est un homme tout à fait estimable. Mais les Girondins, les jacobins, tout ça, c'est des figures de style.
C'était le président qui avait proposé ça pendant la campagne.
Oui.
C'est d'être Girondin, Jean-Pierre Chevènement.
Alors je pense que il faut en effet concevoir que au-dessus de la nation, il peut y avoir des échelons auxquels les nations délèguent des compétences, mais il faudrait encore que ces compétences soient démocratiquement contrôlées. Or, aujourd'hui, en Europe, nous avons la Commission européenne qui ne répond devant personne. C'est une instance antidémocratique. Nous avons la Banque centrale, dont l'indépendance est proclamée par les traités. Nous avons la Cour de justice européenne, avec une jurisprudence proliférante. Les juges, par définition, ne sont pas responsables devant le peuple. Ils sont nommés. Donc ce sont des gens nommés, des administrations composées de dizaines de milliers de fonctionnaires qui font des centaines de directives, de règlements, etc. 80% de notre législation est faite par des gens qui n'ont aucune responsabilité devant une instance démocratique. C'est une démocratie qui n'existe plus. Que formellement, elle est coupée du suffrage universel.
Natacha s'exprimer.
Juste pour souligner le fait qu'il me semble que dans tous les débats que nous avons, que ce soit la question européenne ou que ce soit cette question du fameux pacte girondin ou en tout cas de la façon dont on peut aujourd'hui faire vivre des territoires et y reconstruire une économie, des modes de vie, on est au cœur de la question démocratique. La question est de savoir comment on construit des communautés politiques et comment on fait en sorte de régler ce problème majeur qui est à l'origine de la montée de ce qu'on appelle les populistes, qui est le sentiment pour le peuple d'être dépossédé de sa capacité de décider de son destin. On appelle ça la souveraineté.
Là-dessus, on est complètement d'accord. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas, d'un côté, reprocher à l'Union européenne son immense déficit démocratique que moi je constate et que je concède sans aucun problème et que j'observe, son immense déficit démocratique, et de l'autre côté, au nom de la souveraineté nationale, refuser chaque étape de construction d'une démocratie, d'un processus démocratique européen. Et donc, c'est tout le paradoxe des souverainistes qui vont critiquer le manque de souveraineté démocratique à l'échelle européenne et dans le même temps empêcher la construction de cette délégation de souveraineté.
Laissez le père du souverainisme vous répondre.
Alors,
Jean-Pierre Chevènement.
Je ne me suis jamais réclamé du souverainisme.
Jamais.
Je suis un républicain. Donc le républicanisme me suffit. Mais je rappelle que la souveraineté, c'est le titre 1 de la Constitution, que la réflexion sur la souveraineté, c'est la réflexion de Rousseau, qui est le vrai père de la République intellectuellement
parlant. Mais vous avez des enfants politiques, des petits-enfants politiques, qui, eux, se réclament de vous et du souverainisme.
Mais je
de la souveraineté.
Se réclament de moi.
Qui est le vrai nom de la démocratie.
J'ai exercé un suivi et un contrôle des gens qui se réclament de moi. J'aurais trop de travail.
Mais et c'est pour intéressant être girondin, d'ailleurs parce qu'ils sont partout sur le spectre politique. On les trouve à la fois à gauche et à droite, même à l'extrême droite.
Mais moi je suis content de voir que les idées que j'ai émises longtemps dans la solitude progressent. Et je pense que le débat démocratique c'est ça. Et l'idée de nation, elle a voyagé dans l'histoire. Elle est née à gauche, à la droite essayer de la récupérer en la déformant. La gauche, quand elle était à son meilleur, l'a reprise et... Je pense que c'est faute d'avoir assumé cette idée de la nation que nous avons frayé la voie à l'extrême droite. Mais je vais être plus girondin que Raphaël Glucksmann, parce que on nous parle de décentralisation, mais je regarde que les maires, 50% ne veulent plus se représenter. Oui. C'est une formidable déperdition pour la démocratie, parce qu'il y a des réserves de bénévolat chez les maires. Moi, j'étais maire pendant plus de 20 ans d'une ville importante, Belfort. Mais ces maires, c'est précieux pour la démocratie. On les a découragés, on leur a coupé les vivres, on les martyrise à travers une conception tatillonne de l'intercommunalité. Moi, je suis d'une certaine manière le père de l'intercommunalité urbaine. Les communautés d'agglomération, c'est moi qui les ai créées. Et ça s'est répandu dans toute la France. Maintenant, toutes les villes sont organisées. Et c'est un bienfait. Mais on a voulu caporaliser ces intercommunalités. On leur a fixé des plafonds de population, on leur a fixé des règles. On va maintenant élire le président de l'intercommunalité au risque de délégitimer les maires. Donc, cette politique d'aménagement territorial qui a été menée sous François Hollande se révèle désastreuse, si j'en crois ces sondages. Mais je crois qu'ils sont vrais pour avoir été au contact des maires et qui sont un élément essentiel de la démocratie. Et le président Macron, il a besoin de ces amortisseurs que sont ces niveaux de décision décentralisés. Donc ayons une conception républicaine de la décentralisation. C'est ce que je demande.
Natacha.
C'est-à-dire que le rôle des petits maires, d'abord, nous négligeons en effet le fait que nous sommes un des rares pays qui est administré par des bénévoles. C'est absolument extraordinaire. 36 000 communes administrées
par des quasi-bénévoles, parce qu'il y a une petite indemnité, mais elle est dérisoire.
Voilà, elle est dérisoire. Simplement, ce qui fait qu'ils ne se représentent pas, c'est le fait qu'on les a transformés en exécutants d'une politique de gestion. On leur a retiré les marges de manœuvre, c'est-à-dire qu'on a détruit la démocratie locale. La nation n'est pas contradictoire avec l'idée de l'exercice d'une démocratie locale, puisque c'est en effet la structuration des différentes communautés politiques qui permet ensuite de construire
et
la nation.
Et je renchéris sur ce que vous dites. On a également transformé les gouvernements nationaux en instances d'exécution de décisions prises au niveau européen dans
une
totale opacité.
Vous avez l'air tous d'accord, mais j'aimerais vous demander, Jean-Pierre Chevènement, est-ce que pour vous, la France a finalement, est-ce que la France est plus faible aujourd'hui? Vous qui avez une longue carrière politique et qui avez analysé ces questions depuis longtemps, est-ce que pour vous, la France aujourd'hui est plus faible qu'il y a quelques décennies ou est-ce qu'au contraire, la France reste la France?
La France est une réalité qui vient de très loin. Une nation, ça se fait en au moins un millénaire. Et on peut dire que c'est la partie de l'empire de Charlemagne qui parlait à dialecte roman, la France. C'est ça, hein, au départ. Hein, et puis alors, on a gagné des petits morceaux de l'Autharingie. Mais fondamentalement, la France, c'est la République. Et l'événement central dans l'histoire de France, c'est la Révolution française.
Alors je reformule ma question, est-ce que vous avez l'impression que la République aujourd'hui est en danger? Est-ce que vous avez peur pour la République ou est-ce qu'elle est au contraire forte? La République
Alors, je
n'a
pense
jamais
que
été aussi forte.
Elle est en danger parce que jamais la citoyenneté n'a été autant vidée de son contenu. Je pense que Emmanuel Macron a reçu un lourd héritage sans qu'il s'en rende compte peut-être. Hein, maintenant, il le réalise, c'est que le système ne marche pas, la démocratie ne fonctionne pas. Il faut recréer, je dirais, du débat, du délibératif. Il avait raison d'ailleurs de dire qu'il voulait restaurer la verticale du pouvoir. Il a habité sa fonction, personne ne le conteste. Mais maintenant, on se trouve devant l'insuffisance du délibératif, de l'horizontal. Et il faut que Emmanuel Macron reconstruise la démocratie française. C'est très difficile. Et on ne peut pas le faire uniquement à la lumière du libéralisme. La réalité, c'est pas seulement le marché. Il y a aussi le citoyen. Il y a d'autres dimensions politiques, esthétiques, culinaires, que ce qu'on voudra.
J'allais dire. Il y a des appartenances culturelles aussi et elles doivent se perpétuer.
Raphaël.
Mais moi, là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, voilà, ça va vous surprendre, mais
il y a une émission magique.
Non, mais il y a un immense problème qui est la disparition de la figure du citoyen derrière celle de l'individu. Et le libéralisme là-dessus sape profondément, enfin, le néolibéralisme sape
mais vous
profondément.
Avez fait beaucoup de progrès,
les fondements de la République.
Si vous êtes tous d'accord, je vais créer une dissension.
Là où je trouve très important ce que vous venez de dire, c'est que ça ne passera pas par une restauration pure de la verticalité. La République,
c'est pas juste s'agenouiller.
Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je suis pas d'accord avec la toute première partie de sa phrase en disant il a eu raison de restaurer cette verticalité, parce que je pense que le premier pas qu'il aurait dû faire, c'est justement réhabiliter cette notion de chose commune, et donc de délibération, et donc de rendre du pouvoir aux citoyens.
Laissez le président de la Fondation Respublica pour traduire chose commune.
Il a hérité d'une France où le pouvoir était à plat, donc il fallait le redresser. Redresser ce pouvoir, c'est la verticale. Et le pouvoir, il est vertical. Mais en même temps, le pouvoir ne peut pas être que vertical. La dimension délibérative est essentielle. Et c'est la tâche d'Emmanuel Macron d'y parvenir. Je ne sais pas s'il y parviendra à travers les réformes constitutionnelles qu'il a peut-être présentées un peu hâtivement, avant d'avoir réfléchi au problème qui est devant lui. Sa tâche est immense. Moi, je ne souhaite pas son échec. Mais en même temps, il faut qu'il prenne les bons moyens, les bonnes voies. Hein, l'Europe, elle est à réformer de fond en comble. Il faut revoir les traités, il faut repenser tout ça. Et on ne s'en tire pas avec l'armée européenne. Parce que le problème de fond, il est quand même économique et social. Et l'erreur d'Emmanuel Macron, on peut le dire, c'est d'avoir cru qu'en se mettant dans les clous de Maastricht, hein, les Allemands allaient lui renvoyer l'ascenseur. Or, les Allemands, Madame Angela Merkel, ne lui a pas renvoyé l'ascenseur. Parce qu'elle ne le voulait pas. Et maintenant, parce qu'elle ne le peut plus. Donc ça nous pose un problème.
Alors, critique
comment
de l'Europe,
on va rebattre les cartes ?
Critique de la République, et on va justement aborder un troisième sujet, puisqu'il y a la question de la laïcité, puisque vous êtes aussi le président de la Fondation pour l'Islam, Natacha.
Et surtout parce que au cœur de la République dont vous parlez, qui doit être fondée démocratiquement par le rôle des citoyens, il y a la question de l'appartenance, et il y a la question de cet espace politique neutre que crée la laïcité, et qui est la condition de la République en France. C'est parce que nous avons cet espace politique neutre que nous pouvons ensuite agir en tant que citoyen. Aujourd'hui, Emmanuel Macron essaye de penser les problèmes que pose l'islam de France et son organisation, et il est en train donc de concevoir éventuellement une révision de la loi de 1905, notamment pour faire en sorte que
Christophe
les associations
que
culturelles deviennent cultuelles. Enfin bon, comment fait-on pour revivifier la laïcité qui ne se résume pas à la loi de 1905.
Jean-Pierre Chevènement.
Bien entendu, il n'en parle même pas, la loi de 1905. C'est la loi de séparation des églises et de l'État. Elle comporte tout de suite des exceptions. Elle crée, au sein des enceintes fermées, des aumôneries. Aumôneries militaires, aumôneries de lycée, aumôneries pénitentiaires, aumôneries hospitalières. Et elle va admettre, par exemple, de ne pas s'appliquer à l'Alsace-Moselle, après qu'on ait recouvré les provinces perdues, parce que l'unité nationale est encore au-dessus de la laïcité, si je puis dire. Mais c'est une forme de laïcité, c'est ce qu'on nous expliquera. Dans d'autres cas, par exemple les villes nouvelles, on peut construire des églises sur fonds publics. Hein, c'est un amendement à la loi 1905. Maintenant, le corps de la loi de 1905, ses principes sont intouchables. Si on veut bien comprendre la dimension culturelle de la laïcité, c'est que la laïcité, c'est l'espace commun où les citoyens peuvent s'exprimer pour définir l'intérêt général, à l'abri des dogmes, ou en faisant abstraction des dogmes, de la révélation qui est propre à chacun. Ça ne veut pas dire que chacun ne trouve pas ses motivations dans cette révélation. Hein, il a parfaitement le droit. Hein. Mais ça veut dire qu'il n'impose pas sa révélation aux autres.
Mais est-ce que vous seriez favorable, par exemple, à un certain nombre de dispositions pour interdire qu'on parle de politique dans les lieux de culte ? L'idée a été évoquée, même des peines de prison aggravées pour ceux qui le feraient. Est-ce qu'un prêtre, par exemple, qui fait un sermon sur la GPA ou sur la PMA devant ses ouailles, qui dit ce qu'il en pense, est-ce qu'il doit être rappelé à l'ordre ?
Mon expérience de ministre intérieur fait que je n'utiliserai la répression qu'à dose homéopathique, là où c'est nécessaire, car une société normale, une société qui s'organise quand même par elle-même, qui comprend les limites à ne pas franchir, bien entendu, il faut une capacité de sanction. Mais je crois beaucoup plus à la transparence, par exemple aux prêches faits en français dans les mosquées. Je crois beaucoup plus au fait que ce soit public, hein, pour que, l'État... soit à même de réagir s'il y a des dérives manifestes.
Il faudrait que les autorités publiques surveillent les prêches dans les églises, les synagogues et les mosquées.
Si ces prêches dans les mosquées pouvaient porter atteinte à l'intérêt du pays, bien entendu. Mais il y a des moments où, bien entendu, les évêques, ils étaient contre la bombe nucléaire quand on a voulu faire une dissuasion. Hein, et un amiral leur a dit « Mais mêlez-vous de vos oignons hein. !» Et sur bien des sujets, bah, effectivement, ils s'expriment, ils ont le droit de s'exprimer. Mais comme l'a dit le président Macron, leur avis n'est pas prescriptif. Ils n'ont pas un pouvoir d'injonction. parce que la laïcité réserve aux citoyens, s'exprimant à la lumière de la raison naturelle, hein, le privilège de définir l'intérêt commun. C'est le legs de la Révolution. C'est l'accommodement auquel nous avons réussi à parvenir au bout d'un siècle, parce qu'il a fallu un siècle pour arriver à la séparation de l'Église et de l'État. Et on organisait tous les cultes, Napoléon, sauf un, hein, l'islam, parce qu'il n'existait pas. Mais alors comment fait-on pour organiser, donner à l'islam les moyens de son organisation, les moyens d'avoir des imams, par exemple, formés à Bac plus 5, comme le sont les curés, les pasteurs, les rabbins? Ben, comment est-ce qu'on fait, hein? Parce que la laïcité ne doit pas être impuissante, elle doit être comme la morale de Kant, hein, qui est pure, mais elle n'a pas de main, disait je ne sais plus quel commentateur. Hein. Eh bien, il ne faut pas que la laïcité soit tellement pure qu'elle n'ait plus de main. Il faut qu'elle s'organise aussi pour créer les conditions, ben, je dirais, de l'intégration dans la nation civique de tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion.
Sauf il nous reste très peu de temps.
Sauf que le problème n'est pas seulement une question d'organisation, c'est une question profondément culturelle, c'est-à-dire l'individualisme contemporain aboutit chez les citoyens à privilégier, on va dire, certains types d'appartenance plutôt que l'appartenance politique. Le recul de ce que vous appelez la raison naturelle au profit de l'émotion, de la pulsion et de cette appartenance identitaire est aussi quelque chose contre lequel on ne luttera pas par des lois et par la révision de la loi de 1905.
Emmanuel Macron l'avait dit au discours qu'il a prononcé pour la rupture du jeûne en 2017. Bâtir son identité sur sa seule foi, c'est mettre en question la République et c'est se mettre en dehors de la République.
Mais en même temps, quand il au Bernardin, quand il s'adresse aux catholiques en leur demandant de s'investir en tant que catholiques dans les débats civiques, je pense que là-dessus, il fait une entorse par rapport à justement ce discours-là.
Mais il corrige tout de suite en disant que leur investissement ne peut pas avoir un pouvoir d'injonction. Après tout, si pour des raisons qui leur sont propres, les catholiques veulent s'investir au service de causes d'intérêt général, personne ne va les en empêcher.
Bien entendu, mais ce n'est pas le rôle du président de les appeler à s'investir en tant que catholique.
Mais il pose tout de suite la limite, oui.
Emmanuel Macron serait chevènementiste ?
On dit qu'il l'a été, mais...
Tout jeune homme, à 25 ans, il a été proche de Georges Sarr, à l'époque président du mouvement des citoyens.
C'est le bruit qui court, qui m'a été confirmé d'ailleurs par un certain nombre de gens qui l'ont vu. Mais Emmanuel Macron a un parcours, comme tout le monde, donc il faut le saisir à...
Donc vous le reconnaissez comme un héritier un peu lointain ?
Peut-être, je le souhaiterais. En tout cas, je le souhaiterais, parce que je pense que c'est en se ressourçant dans la tradition républicaine et dans l'esprit des institutions de la Ve République, telles que De Gaulle les avait voulues, que le macronisme pourrait rendre service au pays. Et moi, je souhaite qu'il rende service au pays. Ce n'est pas gagné d'avance, parce que, je dirais, beaucoup sont arrivés en politique sans aucun héritage. Et ils ont cru que c'était formidable, qu'il y avait le monde d'avant épouvantable, oui. Et le monde tout nouveau, tout frais, le monde qu'ils incarneraient. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Et c'est allé trop vite pour Emmanuel Macron ?
Bah écoutez, il est devenu président de la République avant d'être conseiller municipal. C'est assez rare. Hein.
C'est assez rare, c'est même unique.
C'est même unique, on peut dire.
Mais
ça.
Vous avez l'impression de donner une critique de cet itinéraire ?
Ah bah, je critique pas, j'ai dit que ça rend les choses plus difficiles, parce que par définition, un conseiller municipal, bah, il traite de problèmes locaux, il est au contact de ses concitoyens, c'est une expérience. Il y a 500 000 conseillers municipaux, ils sont très utiles. Hein. Ils permettent à la machine de fonctionner avec de l'huile, hein, et à éviter beaucoup de frottements. Alors, Emmanuel Macron, il doit s'atteler au problème de remettre sur pied la démocratie française.
Ben écoutez, c'est pas un mince chantier, c'est pas un petit chantier. Merci infiniment Jean-Pierre Chevènement d'avoir été l'invité du Grand Face à Face ce samedi. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. Merci Natacha et merci Raphaël. À la réalisation, c'était Fred Milano. À la technique, Nicolas Delmas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. À suivre sur France Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.